Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
On dit souvent que les murs ont des oreilles.
Là-haut sur la colline.
Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
C'est maintenant l'heure de parler aux vadrouilleurs, comme je les appelais au début de Là-haut sur la colline, ceux qui sont sur le terrain. Et c'est Patrick Bellerose et Marc-André Gagnon. Bonjour les amis.
Bonjour Antoine.
Ils sont tous deux reporters, correspondants parlementaires à l'Assemblée nationale pour Le Journal et Le Journal. Marc-André, on commence par toi. La sécurité routière, en parler à la télé, ça peut coûter cher et aussi ça peut être assez salissant.
Exact, c'est ça. Ben, donc, cette semaine, je publiais un article sur le fait que le Parti libéral reproche au gouvernement, la SAAQ, de manquer, encore une fois, de transparence, de nous cacher des choses, comme on aime bien le rappeler dans les
pages
du Journal de Québec et du Journal de Montréal. Donc, Catherine Levac, hein, qui est la porte-parole 2003-2024 pour la sécurité routière.
Donc une humoriste bien connue, oui.
Humoriste bien connue. Les publicités, les gens les ont vues à la télévision, dans les journaux, sur Internet. On les entend aussi à la radio, donc où l'humoriste, avec sa touche bien à elle, nous sensibilise aux différentes notions de sécurité routière pour les piétons, pour les cyclistes et tout ça. Donc, c'est une campagne qui a été dotée d'un budget global de 6 millions de dollars, mais aucune façon, Antoine, de savoir combien l'artiste, donc l'humoriste, reçoit. Son cachet est gardé secret. La démarche que j'ai faite, un peu comme celle du Parti libéral qui a fait une demande d'accès à l'information puis qui a essuyé un refus, ben moi, je suis allé un petit peu plus loin. J'ai demandé directement au ministère des Transports, à la SAAQ, qui tous deux ont refusé. Et la SAAQ, ce qu'elle m'explique, c'est que ben, le contrat est signé entre l'agence de publicité qu'ils ont engagée, LG2, et Catherine Levac. Donc, pas moyen. Donc, tout ça, c'est confidentiel. On ne le saura pas.
L'argent vient de nos poches, comme on dit.
Ben exact. C'est ce que soulève le Parti libéral. Ça demeure des fonds publics. Bon, ces campagnes-là sont payées à même le fonds pour la sécurité routière qui est alimenté notamment par les amendes que les gens reçoivent, par exemple, avec un photoradar. Mais il reste que c'est de l'argent public et que les gens ont le droit de savoir. Par exemple, pendant la pandémie, il y a un paquet d'influenceurs qui ont été engagés par le gouvernement. Puis étonnamment, on a réussi à obtenir les cachets. T'sais, j'ai une facture ici de la firme Cossette. On voit 10 000 $ chacun pour participer à une annonce du concours vaccinal à l'époque. Et ben deux entreprises de publicité différentes, deux approches différentes. LG2, j'ai une facture ici dans les mains. Et puis là, cachet des influenceurs pour une campagne, 18-34 ans sur le COVID-19. On voit un montant de 22 000 $. C'est marqué cachet pour l'ensemble des influenceurs. Donc, encore là, on n'a pas le détail, un autre manque de transparence. Mm-hmm. Mais ce qui a aussi retenu notre attention, si je reviens au dossier...
Je pense que c'est ça, hein?
C'est ça, c'est la fameuse fresque. Donc, qui a servi de décor au lancement de cette vaste campagne, la sécurité routière, moi j'embarque, avec Catherine Levac. Donc, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, était en conférence de presse. Ça, c'est devant une école primaire de Québec. On était donc au début septembre 2023, c'était la rentrée scolaire, et les jeunes, avec Catherine Levac, avec la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, ont peint cette immense fresque devant l'école, qui en passant était située... Dans quelle circonscription? Parce que qu'est-ce qui se passait l'automne dernier, Antoine? Tu te souviens?
Pas Jean Talon!
Une campagne électorale. Il y avait une élection partielle dans Jean Talon. Et le gars des vues a fait en sorte que le tournage de la campagne, qui est payé avec votre argent public, a eu lieu dans Jean Talon où il y avait une élection. Que la CAQ, finalement, a perdu à plate couture. Ils ont vraiment mordu la poussière. Et ce qui est d'autant plus intéressant maintenant, c'est le coût de cette fresque-là.
Oui.
Ça, on l'apprend grâce à la demande d'accès à l'information que le Parti libéral
qui était gigantesque, hein?
30 000 $ pour l'ensemble de l'opération. J'inclus là-dedans les frais de sonorisation, 2 000 $, 1 700 $ pour la ministre. Ensuite de ça, 18 000 $ pour la fresque là-dedans. Là, si je le décline un peu rapidement, je ne vais pas perdre les gens dans les chiffres, mais il y a 4 000 $ de matériaux, 3 200 $ pour gérer les artistes et faire la confection de la maquette. Les honoraires des artistes peints, parce qu'évidemment, il n'y a pas que des enfants qui ont peint la fresque, 9 800 $ et bon, des accessoires pour 300 quelques $.
Mais c'est que la fresque n'est pas restée là longtemps non plus. Elle était gigantesque.
Elle
n'est pas
restée là longtemps.
Et, c'est ça l'affaire. Ça a dû coûter cher de nettoyage.
Ben, ça, c'est l'autre élément qui nous a vraiment surpris. 11 000 $ de frais de nettoyage. Et là, il faut aller sur le site Internet du Journal de Québec, Journal de Montréal, pour revoir ces vidéos qu'on avait publiées, qui nous ont été envoyées par des parents d'enfants qui fréquentent l'école, qui ont participé à la conception, qui ont peint la maquette dans la rue avec la ministre et Catherine Levac. Puis le voisinage aussi autour, qui n'en revenait pas de voir que pendant plus de 2 jours, plus de 48 heures, presque 3 jours, ils ont loué, donc une entreprise qui était engagée là, à grand coût, des machines à pression industrielles à gaz, évidemment. Et là, sur les photos, on voit, tu sais, la canisse de gaz devant le power wash, en bon français. Et donc, ça faisait un bruit épouvantable et les parents vraiment étaient scandalisés. Tu sais, quel gaspillage, ça, c'est les parents qui nous disaient ça,
ouais.
De peinture, d'essence, de la pollution. Et la maquette en soi, elle était magnifique. Il y a des parents qui auraient aimé ça, qu'elle reste plus longtemps sur la chaussée.
Mais
la
ville glissante, avait... je pense, hein, c'est ça?
C'est que ça pouvait créer une distraction.
Ah.
Donc, la ville avait prévenu le cabinet, le ministère des Transports, qu'il faudrait tout nettoyer à la fin du tournage, à la fin de la conférence de presse,
bon.
Pour ne pas créer une distraction. Donc, pour des raisons de sécurité routière, encore une fois, 11 000 $ total donc pour l'ensemble de l'œuvre, 30 000 $ pour une fresque qui n'aura duré que quelques jours, mais qui aura pris plus de 48 heures à nettoyer. Je te fais un pari. Il y a le budget qui s'en vient la semaine prochaine.
Et oui, on va en parler avec Patrick, d'ailleurs, oui.
Après chaque budget, suit l'étude des crédits budgétaires, hein, où les parlementaires scrutent à la loupe les budgets des différents ministères et organismes. Je suis convaincu que ce sujet-là, tout ce dont je viens de vous parler, ça va revenir sur la table de la ministre des Transports et de la SAAQ, qui seront certainement cuisinés à l'étude des crédits.
Patrick Marc-André nous en a parlé, le budget s'en vient. Là, on vient de passer 2 semaines de relâche parlementaire. Il n'y avait pas grand vie ici, même si vous avez travaillé pas mal, les gars. Bravo. Mais tu penses que toi, c'est des semaines périlleuses qui s'en viennent pour François Legault?
Ce sera pas facile. Écoute, on verra comment il va s'en sortir à la fin de la semaine. Mais tu dis qu'il y a eu 2 semaines de pause et je pense que M. Legault a... bien apprécié ces 2 semaines de pause-là. On le sait, depuis le début de la session, c'était très difficile. La CAQ est en baisse dans les sondages. On dirait que tout ce qu'ils font vire en eau de vaisselle. Et cette semaine, il y a deux grands tests. Il y a le budget, comme Marc-André disait, et il y a une rencontre avec le premier ministre canadien, Justin Trudeau. Pour ce qui est du budget, écoute, je te dirais que c'est le premier budget des choix difficiles, vraiment difficiles, pour la CAQ. Quand ils sont arrivés au pouvoir, on s'en souvient, il y avait 8 milliards de mémoire de surplus laissés par le grand Couillard. Donc, c'était facile. On faisait des cadeaux à tout le monde. On disait oui à tout le monde. On distribuait l'argent. Par après, il y a eu la COVID.
Les chèques cadeaux.
Tous les gouvernements ont empilé les déficits partout dans le monde. Je veux dire, c'est pas juste au Québec ou au Canada. Mmh. On a accumulé les déficits. Il fallait sauver l'économie. Il fallait réagir. Donc, encore là, on disait oui à tout le monde. Et là, cette fois-ci, ben, M. Legault nous a averti, nous a annoncé que les déficits allaient être plus importants que prévu. Déjà, il y avait un déficit d'environ 3 milliards qui était prévu. On retournait vers l'équilibre budgétaire d'ici 2027. Mais là, tu te souviens, il y a quelques semaines, M. Legault est sorti avec Mme Lebel, avec M. Drainville, pour dire, écoutez, les conventions collectives qu'on a signées, là, 17 % sur 5 ans, ça va faire en sorte que les déficits vont être encore plus importants qu'annoncés. Évidemment, les syndicats ont dit... pas notre faute, il fallait quand même prévoir ces montants-là pour les négociations qui s'en viennent. Donc, on a hâte de voir quand même, est-ce que vraiment les déficits ou l'ampleur des déficits plus importantes est liée aux conventions uniquement? Est-ce que le gouvernement a dû mettre de plus pour réussir à signer? Ou est-ce que M. Legault préparait les esprits parce qu'il sait que ça va être beaucoup plus important que ce qui était annoncé déjà? J'ai quand même hâte de voir. Sinon, pour ce qui est de la rencontre de vendredi, encore là, un test oui, important parce que...
Toute une rencontre, Legault, alors que ça barde entre les deux gouvernements, surtout sur la question de l'immigration.
Ben exact, c'est sûrement l'immigration qui va être au cœur des discussions. On n'a pas voulu trop s'avancer pour nous dire ce qui allait être au menu, mais c'est ce qu'on peut présumer. Tu te souviens, en janvier dernier, M. Legault avait envoyé une lettre à son homologue Justin Trudeau pour dire, écoutez, en immigration, ça fonctionne plus. On a 160 000 demandeurs d'asile sur le territoire québécois. On réussit plus à leur offrir les services. Donc, il va falloir répondre à ça. Mais quand je te disais que c'est un test, c'est que là, cette fois-ci, si M. Trudeau accepte de venir à Montréal, on présume rencontrer M. Legault, de le rencontrer, ben, il faut sortir de la réunion avec une entente importante, une annonce importante pour dire, ben, voici, on a répondu aux demandes de Québec. Je te rappelle ces demandes-là. C'est freiner les demandeurs d'asile qui rentrent sur le territoire québécois.
Ouais.
Répartir équitablement les demandeurs d'asile sur le territoire canadien. Fermer les brèches qui permettent aux groupes criminels de s'infiltrer. Et rembourser les sommes encourues pour les demandeurs d'asile qui sont déjà ici. Ça, c'est chiffré à 1 milliard de dollars pour l'instant par Québec. Écoute, pour le moment, tout ce qu'on a eu, c'est une annonce comme quoi on allait imposer un visa pour environ 40 % des visiteurs mexicains.
Ouais.
C'est pas dans la bonne direction selon Québec, mais c'est loin d'être suffisant. Donc, il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et évidemment, le nerf de la guerre, c'est le 1 milliard. Je suis pas certain que M. Trudeau va arriver avec un chèque d'un milliard de dollars en poche vendredi.
Il reste très surprenant. Hein?
Des déceptions, en effet.
Oui, oui. Marc-André, sur cette rencontre, là...
J'ai hâte de voir si l'ambiance, la relation entre les deux premiers ministres va être chummé-chummé. J'ai hâte de voir si François Legault va appeler le premier ministre du Canada son ami Justin, comme il nous a habitués à le faire dans les derniers mois. Puis,
dans des grandes annonces comme Nordvolt, là, c'était...
c'était là, ça se traitait bien. Où je me souviens, plus près d'ici, de l'autre côté du fleuve, on est à Québec, à Lévis, au chantier d'Évy, il y a quelques mois, M. Legault et M. Trudeau étaient ensemble pour annoncer la relance de ce grand chantier maritime canadien, québécois, lévisien, puis les deux étaient vraiment tout sourire. Mais là, on comprend que les enjeux sont importants. De l'autre côté, tu as le Parti québécois qui est en montée, qui agite l'option souverainiste. Donc, les enjeux sont intéressants. Puis,
je dirais que la bonne nouvelle pour M. Legault, quand même, c'est que M. Trudeau a besoin aussi de faire des gains au Québec. Il y a les élections fédérales qui s'en viennent, peut-être l'an prochain. On sait que M. Poilievre est vraiment en avance sur Justin Trudeau. Donc, ce serait quand même intéressant pour Justin Trudeau d'arriver et de dire, ben voici, je fais des concessions. Pas nécessairement vendredi, mais dans les semaines et les mois à venir, pouvoir annoncer des concessions au Québec. Et en même temps, pour François Legault, ben c'est au cœur même de son plan. Quand Marc-André disait, le Parti québécois est en hausse, ben si François Legault réussit à faire des gains, ce qu'il promet depuis 2015 face à Ottawa, ça va lui permettre de dire, ben voyez, mon approche nationaliste, autonomiste fonctionne face à Justin Trudeau.
Ouais, ça va j'étais surpris décisif. Quand même, les gars, que cette semaine, justement, si M. Trudeau a besoin d'appui au Québec, son gouvernement l'a quand même mis devant deux décisions unilatérales. Évidemment, les immigrants, la réunification familiale, pour être plus précis, mais les caribous aussi. Donc, c'était surprenant parce que c'est le fédéral là, qui, finalement, avance avec ses gros sabots. Oui, Marc-André?
En somme, on est en présence de deux premiers ministres qui ont besoin de marquer des points auprès de l'électorat. Je suis pas certain que pour Justin Trudeau, qui a une élection qui s'en vient avant celle de François Legault, de toute évidence, que ça pourrait être très, très payant là, de se coller et d'essayer de faire plaisir à François Legault. Alors moi, je doute des gains. Puis sinon, rapidement, on parlait du retour à l'équilibre budgétaire. Hein. Notre collègue, notre chef de bureau, Rémi Nadeau, parlait de probablement un retour vers 2030 à l'équilibre budgétaire. Moi, j'ai hâte de voir si ça va se confirmer dans le budget. C'est ça. Ce sera un budget difficile quand même pour le ministre des Finances.
Très bien. Ben merci beaucoup à vous deux. Puis je pense qu'on va avoir du plaisir au budget mardi, tout le monde.
Moi, c'est toujours un bon buffet.
C'est un moment toujours agréable, le huis clos du budget, et on s'en reparle sans aucun doute la semaine prochaine.
Pour la petite anecdote, ça prend toujours quelqu'un pendant que tous mes collègues sont au huis clos du budget. Ça prend quelqu'un pour faire le gardien de but au Parlement parce qu'il y a quand même une période des questions. Alors, cette année, je serai le gardien de but de service. Je ne serai pas au budget. Je vais être au Parlement.
On s'en reparle de toute manière. Merci beaucoup, Patrick Bellerose et Marc-André Gagnon, tous deux du bureau parlementaire du journal ici à l'Assemblée nationale.